Féminicide, Nikit Symphal et le plastique. L'art au parloir, ce que le droit nous apprend de l'art, ce que l'art nous apprend du droit. Par Léa de Lyon et Léobardo Arango. Féminicide. Dans notre premier épisode consacré à Nikit Symphal, nous avons vu que les causes de sa mort n'étaient pas si naturelles que cela.
J'avais un emphysème qui était venu d'avoir trop travaillé avec le polyester.
Le plastique semble y avoir joué un rôle direct. Et les limites juridiques de la responsabilité ne nous ont pas arrêtés. Nous poursuivons donc la fiction qui consiste à lui attribuer une responsabilité juridique pour découvrir et mieux comprendre. Avant d'approfondir, dans le troisième épisode, notre analyse sur le plastique et d'en tirer nos conclusions, arrêtons-nous sur la portée juridique du mot « féminicide » utilisé dans notre titre. Qu'est-ce que cette notion ? Quelle est sa valeur juridique ? Quelle est son histoire ? Continuons notre exploration de la vie et de l'œuvre de Nikit Symphal et, grâce à l'aide précieuse de Victoria Vano, docteur en histoire du droit, spécialiste des violences de genre, ingénieure de recherche au CNRS et coordinatrice du pôle scientifique à l'Institut Robert Badinter, examinons ensemble la notion de féminicide pour affirmer ou écarter la pertinence de son utilisation ici. Tout d'abord, expliquons le cheminement qui nous a conduit à employer ce mot « féminicide ». Dans notre premier épisode, nous avons entendu Nikit Symphal affirmer que ses problèmes pulmonaires venaient de son travail avec le polyester, le plastique donc. Ce sont ces problèmes pulmonaires qui ont provoqué sa mort. D'un autre côté, nous avons introduit, grâce à Sébastien Mabil, le lien entre les questions de genre et celles d'environnement.
Le lien entre les questions de genre et environnement est un lien qui est déjà ancien, qui est particulièrement visible sur les questions d'accès aux ressources, notamment à l'eau, et donc aux conséquences aussi du réchauffement climatique auquel le plastique contribue énormément, puisqu'on estime aujourd'hui que le plastique est responsable entre 5 et 9% des émissions mondiales de gaz à effet de serre, donc c'est une contribution importante, au moins aussi importante que celle du transport aérien dans le monde. Dans de très nombreux pays, ce sont les femmes qui s'occupent de l'alimentation, qui s'occupent des cultures, qui s'occupent d'aller chercher de l'eau. Et dès lors que les conditions environnementales se dégradent, ce sont les femmes qui sont les premières victimes de ces dégradations environnementales.
Nous avons vu aussi que le choix du plastique est une réponse de Nikit Symphal à la domination masculine dans le monde de la sculpture. Elle fuit le bronze, ses codes, ses gardiens. Elle s'invente un espace. Alors, Nikit Symphal est-elle morte à cause du plastique, parce que c'était une femme ? En conséquence, un féminicide ? Mais que dit-on quand on dit cela ? Victoria Vano nous explique l'origine du terme.
De récents travaux menés par des historiens et des historiennes montrent que le mot féminicide existe presque depuis 2 siècles, avec un sens qui diffère vraiment de celui que l'on connaît aujourd'hui. Je prendrai quelques exemples, puisque leurs travaux ont porté essentiellement sur la presse du 19e siècle. Et ils montrent que le féminicide a servi à évoquer le corset qui serrait exagérément la taille des femmes au point de provoquer la mort. Et on pouvait lire dans certains journaux le lacet féminicide. Et puis, il y a encore cette réaction en 1902 d'Hubertine Auclert, qui est quand même la figure du féminisme au 19e siècle, et qui qualifie dans le journal Le Radical, donc on voit bien sa position très ferme, la loi du mariage comme loi féminicide. Alors ici ou là, finalement, au cours de ces siècles, le mot apparaît sans plus de consistance, sans plus de définition. On l'utilise un peu comme ça au débotté. C'est pourquoi il est généralement admis que le mot fasse son apparition plutôt dans les années 1970, sous la plume et la voix de la sociologue Diana Russell, qui s'insurge justement contre les crimes de femmes commis par des hommes parce que ce sont des femmes. Et en 1992, elle va publier avec sa collègue, également sociologue féministe, Jill Radford, un ouvrage de référence intitulé « Feminicide, the politics of women killing ». Et on estime qu'il s'agit là de la première enquête d'observation et de théorisation du phénomène. Il faut dire qu'au cours des décennies qui précèdent, les attentions portées aux violences faites aux femmes se sont accrues, à la faveur des mouvements féministes militants d'un côté, et puis surtout en raison d'affaires très précises d'autre part. En 1989, on a quand même l'assassinat de 14 étudiantes par Marc Lépine à l'École Polytechnique de Montréal. À partir de 1993, on observe les meurtres et les disparitions de femmes au Mexique, à Ciudad Juárez. Plus de 1500 cadavres de femmes sont découverts jusqu'en 2008. Plus de 2000 disparitions sont observées. Et les événements de Ciudad Juárez restent comme un point de départ de la mobilisation en gros des pouvoirs publics dans la lutte contre les violences faites aux femmes. Une mobilisation elle-même inscrite dans la montée, là encore, des attentions sur un plan international. Et l'Amérique latine est ici en quelque sorte précurseur, et cela tient à nouveau au travail de deux femmes, deux universitaires, l'une au Mexique, Marcela Lagarde, et une autre au Costa Rica, Montserrat Sago. Toutes deux féministes militantes qui se sont engagées en politique, elles ont été élues, et elles ont mené des réformes d'envergure dans leurs pays respectifs. Puisqu'il ne s'est pas s'agit simplement de modifier toutes les normes pénales, mais c'est toute une culture juridique qui a tenté de se réformer. Ces actions sont venues préciser, du coup, le sens du mot « féminicide ». Féminicide énonce un crime de genre et désigne le meurtre d'une femme en raison de son sexe. C'est un crime misogyne pour Gilles Radford et Diana Russell. Pour ces femmes, ces militantes, il s'agit de mettre l'accent sur la nature patriarcale des rapports. Ce qui est dénoncé, c'est l'usage de la violence comme outil de répression pour le maintien de la domination masculine.
Il y avait une grande rage, et la rage s'est manifestée contre Dieu, et surtout dans cette le grand piège, la justice, qui me tourmentait d'ailleurs toute ma vie, la question de la justice. Alors donc, il y avait une rage. Cette rage était d'abord pour contre les hommes, contre la société, contre que j'étais une jolie fille, que mes parents voulaient m'élever pour le marché du mariage, que moi je me cherchais mon identité, et que il y avait une énorme angoisse, rage et revendication à prendre.
Plus encore, le terme vient qualifier des violences qui s'inscrivent dans un continuum. Il s'agit ici de toutes les formes de violences qui affectent la vie au quotidien. Ce sont aussi des violences plus structurelles qui répondent à des systèmes économiques qui maintiennent des inégalités et puis des politiques qui acceptent ces formes d'inégalités.
Nous arrivons donc à la dernière partie de notre raisonnement sur Nikit Saint-Phal en lien avec les idées exprimées par Sébastien Mabil. Niki travaille le plastique parce qu'elle se sent marginalisée des formes classiques de la sculpture, parce qu'elle ressent le poids du bronze, parce qu'elle veut offrir l'art à la vie. Mais le souci sanitaire lié au plastique est moindre. On l'utilise parce qu'il est peu cher, qu'il rend accessible la consommation aux classes moins solvables. Il existe donc un lien entre la mort de Nikit Saint-Phal et sa condition de femme. Un lien qui pourrait entrer dans la définition, transmise par Victoria, présente dans une partie des mouvements féministes d'Amérique latine. Mais qu'en est-il en France, concrètement ?
En France, les mouvements féministes des années 70-80 portent plutôt les attentions sur le phénomène des violences conjugales. Et ce sont sur ces violences conjugales que les politiques se focalisent, pour dire vite, puisque ce sont sur ces violences conjugales qu'on va réformer notamment le code pénal. Et le code pénal de 1994 érige en circonstance aggravante le fait de commettre toute atteinte à l'intégrité physique de son partenaire, quel que soit son sexe. Pour le droit, en France, il n'y a donc pas encore de féminicide, car il n'y a pas de crime de genre, au nom du principe d'égalité, au nom du principe d'universalité, ce qui explique d'ailleurs, au même moment, au moment de la réforme du code pénal, qu'on supprime l'infanticide et le parricide. Il faut attendre les années 2010, en gros, pour que le terme féminicide focalise cette fois les attentions en France. En 2014, la Commission générale de terminologie et de néologie l'ajoute même au vocabulaire du droit et des sciences humaines. Le féminicide y est défini comme l'homicide d'une femme, d'une jeune fille ou d'une enfant en raison de son sexe. En 2015, le mot fait son entrée dans le dictionnaire Le Robert, qui le définit alors comme le meurtre d'une femme, d'une jeune fille en raison de son sexe. Le féminicide est un crime reconnu par plusieurs pays d'Amérique latine. Sans pour autant l'évoquer, et sur un plan strictement lexicographique, le féminicide ne signifie pas le meurtre d'une femme, mais bien le fait de tuer une femme pour des motifs liés à son identité.
Comme à notre habitude, nous limitons notre analyse au droit français. Il n'existe donc pas, juridiquement, de féminicide, ni type pénal, ni circonstance aggravante spécifique. Voyons cependant comment les organismes internationaux l'envisagent.
Au cours de cette première décennie du XXIe siècle, l'ONU et l'OMS viennent reconnaître, eux aussi, la notion. L'ONU identifie ainsi 11 cas de figure de féminicide, comme par exemple les violences conjugales, la torture, le massacre, la misogynie, la sorcellerie, les mutilations génitales, le féticide et l'infanticide. L'OMS en identifie 4. Elle distingue le féminicide intime, donc les violences conjugales, le crime au nom de l'honneur, ce sera l'adultère, le féminicide non intime, ce sont toutes les violences commises en dehors, souvent dans l'espace public, et puis le féminicide lié à la dot.
Voilà pour les origines et les définitions.
En 2014, un rapport de la Commission des droits de la femme et de l'égalité des genres du Parlement européen appelle les États membres à qualifier juridiquement de féminicide tout meurtre de femme fondé sur le genre et à élaborer un cadre juridique visant à éradiquer ce phénomène. L'usage du mot reste encore très timide. Même la CEDH, dans une décision de 2017, va avoir du mal à utiliser le mot. On va le retrouver entre parenthèses dans sa décision. Derrière l'usage du mot, en fait, se niche toute une série d'enjeux. Enjeux à la fois sociaux, politiques, moraux, médiatiques et juridiques. Une chose est sûre, en tout cas, il est difficile de traduire juridiquement un concept forgé sociologiquement et politiquement. Certains États ayant légiféré, comme l'Argentine, ont introduit une dimension intersectionnelle du crime féminicide à la croisée entre les facteurs de discrimination et de violence. En 2012, une loi venait ainsi modifier l'article 80 du Code pénal permettant d'interpréter de manière très large la définition tant de la victime que des motifs, sans pour autant introduire le mot « féminicide ». D'autres États ont cherché à inscrire explicitement dans la loi pénale le fait que le féminicide était l'expression létale des rapports de domination. La Colombie, par exemple, définit ainsi le féminicide comme le meurtre commis dans le cadre de l'exploitation des relations de pouvoir exercées sur la femme, exprimée par la hiérarchisation personnelle, économique, sexuelle, militaire, politique ou socioculturelle, ainsi que le définit la loi de juillet 2015.
Remember when I was making those nanas in that studio in Paris? And I was cutting the polyester with those wires? Well, I got burned, my lungs got completely burned with polyester, and I'd spent a couple of months in the hospital then, as I'm very allergic to polyester. But since it's very strange to have the material that one really likes to create with is absolutely deadly, is my enemy.
Alors en France, en 2014, en ratifiant la Convention d'Istanbul, si la France vient reconnaître que la nature structurelle de la violence à l'égard des femmes est fondée sur le genre et que la violence à l'égard des femmes est un des mécanismes cruciaux par lesquels les femmes sont maintenues dans une position de subordination par rapport aux hommes, et bien malgré tout ça, la France n'insère pas dans le code pénal la notion de crime de genre et de féminicide. Pour le moment, il n'est pas question. C'est dans le contexte du Grenelle des violences faites aux femmes en 2019 que le mot commence à se diffuser, à la fois dans le discours politique et militant, relayé en cela par la presse qui commence à compter cette fois les féminicides. Et c'est à ce moment-là que le mot sort de l'ornière dans laquelle il était et qu'il se charge d'une valeur symbolique assez forte. Et on pense donc à l'insérer dans le code pénal. Pourtant, en 2016, dans un avis passé presque inaperçu, la CNCDH avait estimé inopportune l'introduction de ce terme de féminicide dans le code pénal, car il comporterait le risque de porter atteinte à l'universalisme du droit, et pourrait méconnaître le principe d'égalité de tous devant la loi, dans la mesure où le concept viserait explicitement l'identité féminine de la victime. Et le législateur s'est rangé à cet avis. Et puis, il y a la loi du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et la citoyenneté, puisque par cette loi, le législateur vient introduire le crime commis en raison du sexe, à l'article 132-77 du Code pénal, qui dispose que lorsqu'un crime ou un délit est précédé, accompagné ou suivi de propos, écrits, images, objets ou actes de toute nature, qui soient porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la victime ou d'un groupe de personnes dont fait partie la victime à raison de son sexe, son orientation sexuelle ou identité de genre vraie ou supposée, soit établissent que les faits ont été commis contre la victime pour l'une de ces raisons, le maximum de la peine privative de liberté encourue est relevé.
Soulignons-le clairement, l'inexistence du mot dans la loi ne signifie pas impunité.
Par cette loi, le choix a donc été fait d'ériger le motif sexiste et celui sur l'identité de genre en circonstances aggravantes de presque tous les crimes et délits. Ceci en respect du principe de neutralité du droit qui ne distingue pas entre les genres suivant un principe d'égalité. Ce choix des circonstances aggravantes pour réprimer le motif sexiste s'inscrit dans la continuité du Code pénal de 1994, dans lequel avaient été justement supprimées toutes les incriminations spécifiques à la qualité de la victime, comme je l'évoquais, le parricide ou l'infanticide. Alors évidemment, les critiques n'ont pas manqué, notamment sur l'absence de prise en compte de la spécificité des violences faites aux femmes, ce qui qualifie en soi le féminicide. En donnant un nom, il s'agit de montrer toute la gravité du problème. Dans ce cas, ne pas consacrer dans le code pénal le féminicide, c'est maintenir les violences faites aux femmes dans l'invisibilité. Mais si le féminicide ne constitue pas une qualification juridique, il reste d'usage dans le vocabulaire, un usage médiatique, institutionnel et judiciaire, ainsi que le préconise justement le rapport d'information qui avait été fait au nom de la délégation aux droits des femmes et l'égalité des chances entre les hommes et les femmes en 2020. Le féminicide est donc un terme qui permet de nommer une réalité et de matérialiser des rapports de domination. Il permet d'identifier le phénomène social des violences faites aux femmes, mais il ne constitue pas une catégorie juridique.
Le verdict est sans appel. Juridiquement, la mort de Nikita Saint-Phal n'est pas un féminicide. Mais l'analyse de Victoria nous permet de souligner un point essentiel. Le droit n'est pas la réponse à tout. L'absence dans la loi n'efface pas d'autres formes d'existence. Et un féminicide, même s'il n'est pas nommé comme tel, reste puni, et plus sévèrement, par le droit pénal. Cette inexistence n'enlève rien, ni en importance, ni en pertinence. Non, juridiquement, la mort de Nikita Saint-Phal n'est pas un féminicide, mais selon certaines définitions, on peut légitimement la considérer comme telle, et ainsi mieux saisir notre analyse de la responsabilité de notre inculpé. Pour finir, Nikki a-t-elle été tuée par le plastique ? Sa mort s'inscrit-elle dans un continuum ?
Il s'agit ici de toutes les formes de violences qui affectent la vie au quotidien. Ce sont aussi des violences plus structurelles qui répondent à des systèmes économiques qui maintiennent des inégalités et puis des politiques qui acceptent ces formes d'inégalités.
Relève-t-elle d'une discrimination environnementale ?
La question de ces inégalités environnementales ne se limite pas non plus à la question du genre. Il y a également ce qu'on appelle le racisme environnemental, qui est aussi un sujet sur lequel se penchent de plus en plus de chercheurs dans le monde.
C'est ce que nous verrons dans notre prochain épisode, qui viendra conclure notre travail sur Nikita Saint-Phal. Merci à Victoria Vano et à Sébastien Mabille pour leurs éclairages et pour leur disponibilité. Retrouvez tous les épisodes de L'Art au Parloir sur toutes les plateformes de podcast et sur amicus.radio-curiae.net. À bientôt.